franceinter.fr.
Et la matière noire qui n'en finit pas d'étonner les chercheurs, cette fois c'est une galaxie entière composée à 99,99% de matière noire qui vient d'être détectée par le télescope Gemini, un objet parfaitement nouveau que vous commentez avec nous, Aurélien Barraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble et puis en studio le retour pour cette rentrée de Philippe Narajos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Aurélien Barraud, une galaxie composée quasi uniquement de matière noire, est-ce que c'est une surprise?
Oui, c'est une surprise dans cette gamme de masse. On en connaissait des très petites, ce qu'on appelle des galaxies naines, mais une galaxie aussi lourde que celle-là, environ 1 milliard de fois même la masse du Soleil, ce qui est à peu près la masse de notre propre galaxie, la Voie lactée, c'est effectivement une surprise.
Et Philippe, comment est-ce qu'on l'a détectée alors cette galaxie ?
Mais un petit peu par hasard en fait. Les astronomes qui manipulent le télescope Gemini, qui est un télescope de 8 mètres qui se trouve à Hawaï, explorent régulièrement cette région du ciel qui se trouve dans la constellation de la chevelure de Bérénice, où se trouve quand même un gros amas de galaxies qui n'est pas très loin et qui est très intéressant. Et donc en examinant ces clichés, ils ont fini par remarquer la présence très discrète d'une espèce de petit halo à peine visible. Et donc il y a eu un complément d'observation, notamment avec le télescope Keck, qui lui est toujours à Hawaï mais qui fait 10 mètres, et avec un spectrographe, ils ont mesuré les vitesses des étoiles qui se trouvent à l'intérieur de cette galaxie, puisqu'il s'agit d'une galaxie, même si elle était toute discrète, se trouve à 300 millions d'années-lumière à peu près, c'est à peu près la distance de cet amas auquel je faisais allusion, sauf qu'elle est quasiment pas visible. Donc en mesurant les vitesses de ces étoiles, les astronomes se sont aperçus que ces étoiles tournaient trop vite autour du centre de la galaxie, et donc il fallait qu'il y ait une masse supplémentaire, et en mesurant cette masse, ils s'aperçoivent que la masse des étoiles, c'est 0,001% de la galaxie totale. Donc tout le reste, 99,99%, c'est autre chose.
Voilà, il fallait tomber dessus.
Alors Aurélien Barraud, c'est une simple curiosité ou ça va nous aider à avancer sur la matière noire, cette galaxie ?
Bah écoutez, moi je trouve que le problème de la matière noire, il est quand même extraordinairement élégant. Vous savez, nous les chercheurs, on est toujours en recherche de nouvelles physiques. On cherche des étrangetés, c'est ça qui nous permet de mieux comprendre le monde. Et souvent, on se trompe. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, au grand collisionneur de Hadron, le LHC au CERN, on a cru qu'il y avait un petit signal, et puis le temps passant, on s'est rendu compte que c'était simplement une fluctuation statistique. La matière noire, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on a inféré son existence en 1933. Et depuis, les preuves ne font que s'accumuler en faveur de ce qu'il s'agit bien de quelque chose de réel. C'est pas une vue de l'esprit, ça existe, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc il faut beaucoup réfléchir, beaucoup observer, et il est très clair que cette pièce nouvelle qui vient s'agencer sur le puzzle de notre incompréhension de cette matière noire va certainement jouer un rôle très utile.
Et on comprend de moins en moins de quoi il s'agit, finalement, avec toutes ces découvertes,
oui,
ou pas?
Alors, ce qui est complètement incroyable, c'est qu'on sait qu'il y a deux types de matière noire.
Allons bon, appeler... en plus.
Oui, voilà, non, mais ça serait trop simple. Sinon. Puis il y a aussi de l'énergie noire, mais ça on en parlera une autre fois. Oui. Donc il y a de la matière noire qu'on appelle baryonique, mais ça veut dire normale, elle est faite de protons et de neutrons. On ne sait pas bien où elle est, on ne sait pas trop si c'est du gaz, si c'est des petites planètes, on ne sait pas bien macroscopiquement comment elle se répartit, mais on sait qu'elle est faite avec des constituants connus, des protons et des neutrons, comme dans la pièce où nous nous trouvons tous. Mais il y a aussi de la matière noire exotique, ce qu'on appelle non baryonique en physique. Et cette matière noire exotique, c'est encore plus dingue, parce que non seulement on ne sait pas bien où elle se trouve dans l'univers, mais en plus, on ne sait même pas de quelles particules elle est constituée. Pire, on sait qu'elle n'est pas constituée des particules connues.
Et surtout, il y en a beaucoup.
Et il y en a beaucoup, c'est ça qui est fou. La matière noire standard ou normale est déjà 10 fois plus abondante que les étoiles, qui est la totalité de ce qu'on voit quasiment, hein. Donc c'est déjà un énorme mystère. Mais cette matière noire non standard, composée de corpuscules inconnus, est elle-même environ 5 ou 6 fois plus abondante que la matière noire standard, et donc 50 fois plus abondante que la totalité de ce qu'on voit dans l'univers.
Et
donc clairement, le monde est noir.
Et donc ça veut dire qu'il faut trouver de nouvelles particules, Aurélien Barraud aussi?
Alors on les cherche partout, il faut les trouver, on espérait les voir au LHC, hein. Le grand collisionneur du CERN était en partie, pas seulement, mais en partie construit pour ça, jusqu'à maintenant nous avons échoué, mais on les cherche aussi avec des méthodes astrophysiques, parce que ces particules de matière noire pourraient s'annihiler et émettre d'autres particules qu'on serait en mesure de détecter. Il y a une grande activité de recherche à l'échelle internationale autour de cette question qu'on s'accorde à considérer comme essentielle, mais sans aucun succès depuis près d'un siècle de recherche.
Philippe Hénarejos.
Et alors justement, cette galaxie qui est constituée essentiellement de matière noire, est-ce que c'est plutôt de la matière noire exotique ou de la matière noire tout au noir, normale en fait? Quelle est plutôt la piste là?
Bah écoutez, je serais ravi de pouvoir vous répondre, mais comme vous le savez aussi bien que moi, pour le moment on n'en sait rien, puisque les mesures dont on dispose grâce aux belles observations astrophysiques récentes nous donnent la masse totale, on la compare à la masse visible et on se rend compte qu'elle est beaucoup plus grande, mais elle ne nous dit pas quelle est la nature de cette masse. Donc on ne sait pas si c'est de la matière standard ou de la matière exotique, et là je pense que les conjectures vont aller bon train.
Mais je reviens du coup sur ma question de tout à l'heure, comment cette galaxie va pouvoir nous aider concrètement? Est-ce qu'on va l'étudier encore pour essayer d'avancer sur cette matière noire?
Alors, moi, je dirais qu'au niveau de la matière noire elle-même, c'est pas une révolution, parce que finalement, on le savait déjà que la matière noire existait, donc ce n'est qu'une corroboration supplémentaire. Là, peut-être où ça va jouer un rôle plus essentiel, c'est au niveau de la compréhension de ce qu'on appelle la formation des structures. C'est-à-dire, comment est-ce qu'un univers qui, au départ, était extrêmement homogène, donc le même partout, pas très intéressant, est devenu ce cosmos diapré, foisonnant et structuré que nous observons autour de nous, qui a permis l'existence de Lucie, par exemple? Ça, on comprend pas très bien à l'heure actuelle, et cette galaxie-là vient remettre en cause un certain nombre de scénarios que nous avions élaborés pour comprendre l'apparition des galaxies. Donc du point de vue de cette pièce essentielle de notre histoire cosmologique, vraisemblablement il y aura un renouveau.
Philippe, de la matière noire, est-ce qu'il faut aller aussi loin pour essayer d'en savoir plus, pour percer le mystère, ou est-ce que sur Terre on peut tenter de faire des travaux justement?
Alors il y a des chercheurs, des laboratoires qui se sont mis en quête aussi de cette matière noire sur Terre par la physique tout simplement. Là on n'est plus dans l'astrophysique, ouais. C'est-à-dire que si la matière noire est faite de particules exotiques, on peut espérer que ces particules, à un moment donné, vont quand même interagir un petit peu avec les particules de matière qu'on connaît. On appelait ça les WIMPs, c'est un acronyme anglais qui signifie que ce sont des particules qui interagissent peu, mais qui interagissent peut-être un peu. Donc on a créé des détecteurs, il y en a quelques-uns dans le monde. Et récemment, en juillet, le 21 juillet, il y a eu un résultat de l'un de ces détecteurs qui est actuellement le plus gros en service. En gros, c'est une grosse cuve remplie de xénon où on attend qu'il y ait une particule de matière noire qui traverse et qui interagisse. Donc ça crée une étincelle, si vous voulez, que les détecteurs vont détecter. Et bien là, au bout de, je crois que c'est 20 mois d'observation, le premier bilan, c'est rien. Pas de WIMPs à l'horizon. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, comme l'ont dit les chercheurs, mais ça veut dire que les WIMPs sont pas... Ça élimine un certain nombre de WIMPs tels qu'on les imaginait. Donc, il en reste encore un peu, mais vous voyez, on est en plein dans le flou, on est dans le noir.
Est-ce que ne pas la trouver est un indice quand même, Aurélien Barraud, sur cette matière noire et cette non-détection, du coup?
Oui, en effet, c'est un indice, comme vient de le dire mon ami, parce que un certain nombre de modèles prévoyait qu'on devait l'avoir. Donc ces modèles-là sont exclus, c'est très bien, hein, c'est l'avancée normale de la science par élimination des modèles insatisfaisants. Néanmoins, ça ne remet pas du tout en cause l'idée globale d'existence de matière noire, parce que finalement, pour la majorité des théories sérieuses actuellement étudiées, il était attendu de ne pas l'avoir. C'est bien le problème, hein, de la matière noire, c'est qu'elle est très noire, sans quoi on l'aurait déjà détectée. Donc le fait que des détecteurs qui sont un petit peu à la limite de ce qu'on sait faire ne la voient pas, est en quelque sorte un non-événement, puisqu'on sait bien qu'elle est très difficile à mettre en évidence. La quête est en marche, on construit des détecteurs de plus en plus gros, de plus en plus sensibles, et je crois que quand on parviendra enfin à l'identifier, ça sera à la fois une révolution pour la cosmologie, puisqu'on comprendra ce qu'est l'essentiel de la masse de l'univers, et une révolution pour la physique de l'infiniment petit, puisque vraisemblablement, on aura enfin trouvé une particule au-delà de notre sacro-saint et satané modèle standard.
Bon, bah on n'y voit pas plus clair, mais cette physique reste toujours aussi élégante, donc ça nous va finalement. Merci Aurélien Barraud pour votre décryptage. À bientôt. Et puis Philippe Hénarejos, on pourra savoir plus dans les pages de Ciel et Espace, par exemple.
Bien sûr.
Sur le site de Ciel et Espace. Merci beaucoup. Bon week-end. À lundi, Axel.
À lundi, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un volcan qui se réveille lentement près de Rome. Le séisme survenu dans le centre de l'Italie le 24 août et ayant coûté la vie à 292 personnes en est la preuve. La Grande Botte n'est pas une zone calme sur le plan de la géophysique. Ce sont les conséquences du mouvement de la plaque tectonique africaine qui s'enfonce sous la plaque eurasienne sur toute la longueur du pays. Ce lent processus souterrain provoque en ce moment donc des séismes réguliers dans la zone des monts Albins, près de la capitale italienne. Cette ancienne zone volcanique éteinte depuis 36 000 ans pourrait donc être en train de se réveiller, mais une éruption reste peu probable avant 1 000 ou 2 000 ans, selon les scientifiques qui nous rassurent. Les primates en captivité ont la même flore bactérienne intestinale que les humains. Des milliards de bactéries vivent dans l'intestin des primates. Et comme chez les humains, elles jouent un rôle important dans le bon fonctionnement du métabolisme du système immunitaire. Les chercheurs ont étudié la flore microbienne et le régime alimentaire de plusieurs primates vivant en liberté, en semi-liberté, en captivité. Et selon leurs conclusions publiées dans la revue CNAS, la modification de la flore microbienne des primates vivant en captivité est très importante et sera la conséquence d'un manque de fibres et de végétaux dans leur régime alimentaire. Et puis de nouveaux vêtements en plastique qui refroidissent la peau. Des ingénieurs de Stanford ont développé une fibre bon marché à base de plastique qui, une fois implantée dans du textile, permettrait de refroidir le corps bien plus efficacement que les vêtements classiques. Tout comme les textiles respirants déjà et qui existent, ils laissent s'échapper la sueur. Mais ces fibres innovantes permettent également au rayonnement infrarouge du corps de s'échapper librement, comme si vous étiez nu. Une prouesse abaissant la température ressentie de 2 degrés par rapport à un habit en coton. Vêtements pour l'instant au stade expérimental.